Lundi 7 juin 2010, nous allons faire la deuxième interview de Monsieur Denis, qui a accepté de nous accorder cette interview. Monsieur Denis, après votre agrégation de physique, votre premier poste, ça a été au lycée de Dakar, donc dans l'enseignement. Vous vous rappelez de cette période ?
Oui, oui, oui. C'était un moment où il y avait... J'ai terminé mes études que j'avais faites à l'école normale. Et comme les Allemands avaient envahi la France, moi, on m'avait confié un poste près de Marseille, avec une batterie de canons, pour protéger les installations de Marseille, près de Marseille, pour l'essence. Et donc j'étais là, et tant que les Allemands, il y avait une partie qui était libre en France, il y avait une zone libre, j'ai pu rester là pour protéger les quand il y a les avions allemands qui arrivaient, j'ai retiré dessus pour qu'ils ne démolissent pas les productions de...
C'était du pétrole peut-être,
oui,
c'était,
le, oui, oui,
c'était des réserves.
Oui. Et puis j'étais dans la région de Marseille, pas loin de Marseille. Et puis la zone libre n'est devenue plus libre. Les Allemands ont envahi la zone libre. Alors moi, il a fallu que je reste pas là, je foute le camp. Et j'ai demandé à un gars là qui était là, qui tenait jouait un rôle au port de Marseille, je demandais, il allait partir lui aussi. Et alors j'ai dit, moi je voudrais bien rejoindre De Gaulle, est-ce que vous pouvez m'emporter ? Il m'a dit, oui, prenez-le. Nous prenons le bateau, et puis nous allons passer par Gibraltar. Il me dit, oui, partez. Enfin, je lui ai dit, parce que les Allemands vont arriver, là, alors je ne peux pas rester. Donc, j'ai pris le bateau. Et puis sur le bateau, je lui ai dit, j'aimerais bien retrouver De Gaulle. Alors il m'a dit, ah oui, mais moi je ne vais pas pouvoir, hein, parce que je vais en bateau, mais je vais aller jusqu'à Dakar. Mais de Dakar, vous partirez facilement, vous retrouvez De Gaulle. Je lui ai dit, bon. Alors je suis resté sur le bateau, puis on est arrivé à Dakar. C'est comme ça que je me suis trouvé à Dakar. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient là. Et ils ont vu arriver un jeune homme qui sortait de l'école normale. Alors, ils avaient leurs enfants avec eux. Ils se sont dit, oh, bah, écoutez, arrivez là, vous allez faire enseigner à nos enfants un petit peu, ça nous servira beaucoup. J'ai dit, oui, mais moi, je suis venu pour ça, pour rencontrer De Gaulle. Il m'a dit, oh ben, vous pourrez y aller, on va organiser ça, vous verrez, ça ira. Je dis, bon. Alors je me suis mis là, et puis j'ai enseigné aux enfants qui étaient des Français qui étaient là, et puis même de l'Arabe qui était président de Dakar à ce moment-là. Il avait deux enfants quelqu'un a appris aussi le français.
Et vous enseignez le français ou bien la physique et les mathématiques ?
Je faisais la physique et les mathématiques, je faisais tout. Oui. Et ça a bien marché. Et j'ai essayé de partir 4 fois pour rejoindre De Gaulle. Et à chaque fois, on m'avait dit oui, parce que moi je suis venu ici, mais c'est par hasard que je suis venu ici, et je suis bien heureux d'avoir enseigné à vos enfants, mais maintenant je voudrais quand même aller. C'est pour ça que je suis venu pour rejoindre. de Gaulle. Alors, bon. Alors, toutes les fois, ils m'ont dit, bon, c'est ça. Et puis, vous allez pouvoir partir deux jours, enfin. Ouais. Et puis, la veille des deux jours où je partais, j'étais réveillé à 10 heures du soir dans ma chambre. On se frappait à ma porte. Et pour me dire que mon départ devait être annulé, je ne pouvais pas partir. Mais que je partirais plus tard, mais que là, je vais rester encore quelques jours. Et bon. Et puis, alors, une première fois, je devais aller retrouver, je ne sais pas, je devais retourner l'armée française pour me battre contre les Allemands. Mais finalement, ça s'est passé quatre fois comme ça. À chaque fois, ils me disaient, non, restez là pour nos enfants. Ça sera plus intéressant que d'aller. Et puis finalement, j'ai pu quand même partir quand De Gaulle est arrivé au nord de l'Afrique. Et donc je suis parti et j'ai rejoint De Gaulle là au nord de l'Afrique. Il y avait Mesmer qui était là aussi. Les bateaux sont venus nous trouver. On a traversé la Méditerranée. Et on a débarqué finalement près de Marseille, en France. Et là, eh bien, on est remonté pour bagarrer avec les Allemands.
C'était en 1944 Et donc vous remontez avec l'armée de libération.
Oui, je monte à l'armée de libération. Jusqu'à Paris. Hein. Les Américains venaient nous aller débarquer pour nous en France. Et je me suis trouvé aller en Bretagne pour recevoir les Américains. Après, on est revenu enfin, ça s'est terminé à ce moment-là, les Allemands ont foutu le camp. Et puis, je suis revenu à Paris et je suis revenu à l'école normale.
Quoi. Donc, vous retrouvez votre laboratoire.
Mon laboratoire, c'est ça.
Mais vous aviez préparé avant la guerre un DES en spectroscopie avec le directeur de l'école normale qui s'appelait Monsieur Blum, c'est ça, et qui avait été... Qui est mort pendant la guerre, qui a été déporté. À la fin de la guerre, vous retrouvez c'était Yves Rocard qui dirigeait le laboratoire de physique de l'École normale supérieure, c'est bien cela?
Oui. Mais, et il avait fait travailler justement Steinberg et Blum, là aussi. Et moi, je me suis trouvé, enfin, à faire la guerre, je me suis retrouvé à aller jusqu'en Bretagne pour recevoir les Américains qui arrivaient, si vous voulez. Et bon, ça s'est passé comme ça, et puis finalement, la paix est revenue. Et je suis revenu à Paris. Parce qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé Steinberg et Blum qui travaillaient, qui avaient un télescope à l'école normale à Paris. Mais malheureusement, il y avait des tas de parasites à Paris, des gens qui font de la radio. Et alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, on doit pouvoir aller installer un poste de récepteur au sud de Paris, parce que c'est pas la peine de venir ici, parce que tout ce qu'on observait, c'était le soleil, qui était donc dans le sud plutôt. Et donc, et c'est à ce moment-là que j'ai créé la station de Nancy, qui est au sud d'Orléans. Et c'est là que j'ai créé cette station, je me suis aperçu que cette station, elle a été très très bien reconnue par un dénommé Hort, qui était un Hollandais. Hort était très intéressé à cette station et à ce qu'on faisait là-bas. Et il a rencontré De Gaulle et ils sont venus voir, s'intéresser. Ils sont venus voir à Nancy. De Gaulle et Hort. Et j'ai eu une photographie, parce que moi je ne revenais pas que De Gaulle soit descendu à Nancy. Enfin, il était à ce moment-là le patron de la France. Hein. Alors, bon, j'étais très très flatté. Et on a fait une photo de... il y a De Gaulle avec Hort, enfin, qui est là. Et cette photo, je l'ai cherchée partout, je ne la retrouve pas. Et ils l'ont sûrement, ils l'ont dû la garder à Nancy. Mais à Nancy, c'était curieux parce que c'était loin de Paris. Hein. Et à Nancy, les Parisiens, ils n'aiment pas beaucoup aller loin de Paris. Quand on a créé Nancy, là, bon, moi, il a fallu acheter à peu près un terrain qui fasse 2 km de côté pour pouvoir faire déplacer des récepteurs. Et ça m'a demandé beaucoup de travail parce que j'étais voir le président d'Orléans, pour acheter ce terrain. Je trouvais de l'argent, mais pour l'acheter, c'était pour l'avoir, c'était pas commode, parce que c'était un terrain qui était là-bas, au sud d'Orléans. C'était assez loin de Paris. Et les Parisiens sont quand même venus m'aider pour construire la première chose. Et puis... après, il préférait rester à Paris. Et j'en ai pas trouvé un qui veut être directeur de Nancy. Et par contre, la direction de Nancy a été prise par un Hollandais, par un copain de Hort, qui a dirigé la station de Nancy. C'est... et moi, je suis retourné de temps en temps.
Vous faisiez des longs séjours à Nancy ou vous y
aviez... ben, au début, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé à démarrer Nancy, les gens sont venus avec moi, comme Steinberg, Blum, enfin, puisqu'on était tous les deux. Et puis il y a d'autres gens, comme Arsac, qui sont venus. Bon, puis on a construit l'essentiel, enfin, de ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Mais après que ça a été fait, ben, il a bien fallu qu'un directeur soit annoncé. Et moi, j'avais à ce moment-là d'autres choses à faire aussi. Et des Français, il n'y en a pas tellement eu. Et finalement, c'est un Hollandais qui a pris la direction de Nancy et qui l'a tenu jusqu'à maintenant encore. Je ne suis pas arrivé à retrouver son nom.
Et quel type de recherche vous meniez à cette époque-là?
Quel type de recherche?
Oui, vous travaillez dans quel domaine?
Ah ben, je travaillais dans le domaine de la radioastronomie. La radioastronomie... et j'avais organisé le récepteur de Nancy pour qu'on puisse voir toutes les ondes radio qui venaient du ciel et qui était sur des longueurs d'onde qui étaient les ondes de radioastronomie. Et puis il y en avait aussi sur des ondes plus courtes. C'est-à-dire qu'il y a à l'observation du ciel qu'on avait toujours fait dans le visible, eh bien, il y avait toutes deux portions d'ondes plus longues qui étaient des ondes électromagnétiques, des radios, des ondes radio, mais qui ne pouvaient pas être détectées dans le visible. Et pour les ondes courtes, c'était pareil d'ailleurs. Et des ondes X, ce qu'on appelle, qui sont des ondes trop courtes pour qu'on les observe dans le visible. Et par conséquent, avec la station de Nancy, on pouvait observer aussi bien ces ondes courtes que ces ondes longues. Parce qu'on avait fait des systèmes de réception où on rallongeait le traparcours. Et pour le moment, ça marche encore.
Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui a été importante dans votre carrière et dans votre orientation de recherche, c'est qu'en 1947-1948, vous êtes envoyé aux États-Unis comme guest worker au National Bureau of Standards à Washington.
Mais oui,
pendant deux ans. Est-ce que vous vous rappelez de cette période américaine de...
Oui, mais c'est-à-dire que pendant cette guerre qu'on faisait en France, cette guerre ne touchait ni les Américains, ni les Australiens. Et par conséquent, eux, ils faisaient des observations et ils avaient trouvé des ondes radio. Alors Yves Rocard m'a envoyé aux États-Unis, parce que les États-Unis n'étaient pas dans la guerre. Et donc aux États-Unis, j'étais là-bas et j'ai vu les gens qui avaient découvert la radio. La
radio. C'était un domaine de recherche totalement nouveau en fait.
Ah, il était totalement nouveau, mais nous on ne pouvait pas le faire, puisque les Allemands étaient en guerre, et tandis que les Américains, ils travaillaient tout. C'est pour ça que j'ai été les voir là-bas pour voir ce qu'ils faisaient et me donner des idées sur la façon de faire les choses en France. Quoi.
Oui, et ramener en fait ces nouvelles
recherches
en France.
Et c'est à ce moment-là que Nancy a eu de l'importance parce que on pouvait effectivement faire des mesures. C'est comme ça qu'on a construit Nancy, pour faire des mesures d'ondes radio astronomiques. Et à Nancy, on peut observer aussi bien des ondes plus courtes que les ondes visibles, et plus longues aussi que les ondes visibles radio. Et c'est ça qui a fait l'intérêt de Nancy. Quoi.
Il y avait beaucoup de monde à Nancy ou c'était une petite équipe à l'époque?
Bien, il y a eu au début, il y avait beaucoup de monde, oui. Et au début, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, oui, qui étaient intéressés à danser. Mais bientôt, on n'est pas arrivé à trouver quelqu'un qui veuille diriger danser, oui. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé ce Hollandais qui a dirigé danser. Alors que tous les Parisiens, les Français, les scientifiques français ne tenaient pas à y aller. C'est quand même très curieux. Enfin, il y en a qui tenaient à y aller quand même, qui allaient faire des observations. Mais les astronomes, ils n'allaient pas annoncer tellement.
Vous-même, en 1951, je crois, vous repartez à Dakar, brièvement, pour être maître de conférence et enseigner la physique au MPC. Vous vous rappelez de cette période-là?
Eh bien, c'est-à-dire que cette période, c'était une période où il allait d'avoir des éclipses du soleil. Et pour aller voir ces éclipses, oui, il fallait que j'aille en Afrique. Et donc, j'étais à Dakar avec le télescope et le truc. C'était la marine française qui m'a permis de transporter tout ça. Et on l'a installé à Bamako. C'était là qu'on devait saisir l'éclipse. Et effectivement, on a saisi l'éclipse, mais comme j'étais parti, j'avais quitté la France, ma femme attendait un enfant. Et elle a eu cet enfant, elle est restée à Dakar pour avoir cet enfant. Et je suis revenu le retrouver après, quand je suis revenu de l'éclipse qu'on avait observé à Bamako. C'est Bamako.
Ah oui, votre épouse vous avez suivi en Afrique.
Oui, c'est ça, oui, oui. Mais je l'avais rencontré en Amérique.
Je l'avais rencontré pendant que vous étiez justement au National Bureau of Standards.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et on s'était marié là-bas en Amérique. On avait trouvé quelqu'un pour nous servir de. On a besoin toujours de. C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qu'on a rencontré dans la rue.
Un témoin.
Quoi ?
Un témoin.
Un témoin, c'est ça.
Donc après cet épisode où vous revenez à Dakar pour observer une éclipse et puis pour enseigner quand même à Dakar. Quand vous revenez, en fait, vous rentrez en contact avec André Danjon, qui vous arrache à l'École normale supérieure et vous amène à l'Observatoire de Paris, enfin à l'Observatoire de Meudon plus exactement, pour y faire de la radioastronomie. Donc vous vous rappelez de votre...
Bien sûr, oui, oui. C'est que c'était la guerre avec les Allemands qui s'étaient arrêtés, qui s'étaient arrêtés. Alors, à ce moment-là, j'ai été en Allemagne et on a ramené deux grands
radiotélescopes,
oui.
Grandes antennes.
De grands télescopes. Et c'est ces télescopes que j'ai amené à Meudon. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai amené ces télescopes. Et bon, j'étais à m'installer à Meudon aussi pour les mettre en place et puis les faire marcher.
Vous vous rappelez d'André Danjon lui-même ?
Oh, ben bien sûr, oui, oui, oui. Oui, oui. Ah ben oui, c'est on avait commencé à faire de la radio à Paris, j'ai été voir Danjon pour lui dire que ce serait bien qu'on puisse le faire ailleurs. Et donc, on a raccroché la station de Nancy à l'observatoire de Paris, si vous voulez, en gros. Quoi. Mm-hmm. Mais en fait, c'était à Meudon, puisque c'est à Meudon que j'ai transporté les télescopes. Et là, eh bien, ces télescopes, ça a servi un peu. Et on a étudié, regardé le soleil, et on a observé des choses qu'on n'avait jamais observé. Et les sursauts de type 4, des choses comme ça.
Et vous pouvez m'expliquer ce que sont les sursauts de type 4 ?
Dans la lumière que vous envoie le soleil, à un endroit, on voit une lumière qui monte, qui n'est pas une lumière qui est très forte sur les ondes radio. Voyez-vous ? Ce n'est pas les ondes lumineuses, c'est les ondes radio. Et ça, on a organisé ces télescopes pour pouvoir les détecter, voyez-vous, celle-là. Et on a fait ça à Meudon au début, et ça a bien marché. À ce moment-là, Meudon a fait pas mal de choses qui étaient intéressantes.
Donc en fait, ça a été un passage en douceur de l'école normale supérieure à Meudon, en fait.
Oui, 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 c'est ça.
Et vous avez retrouvé les mêmes personnes ou il y avait de nouveaux chercheurs qui avaient rejoint
Quand je suis arrivé à Meudon, il y avait les mêmes personnes. Il y avait toujours Blum et Steinberg qui sont venus à Meudon, oui. Mais j'ai recruté des tas de gens. Des tas de gens. Et des tas de gens qui sont... Il y en avait certains qui sont sortis de l'école polytechnique, là. Puis j'allais les voir pour voir si vous voulez rentrer à Meudon. Et puis d'autres qui venaient de l'école normale. Et puis tous ces gens-là sont venus s'installer à Meudon. Et ils ont travaillé, là, avec ce qu'on avait organisé.
Mais est-ce qu'ils utilisaient aussi la station de Nancy?
Eh bien... Nancy, pas tellement. Pas tellement, parce que pour Nancy, il fallait prendre le train, il fallait descendre jusqu'à Orléans, puis là, aller là-bas. Et il y en a qui ont été, mais finalement, c'est Nancy, le directeur de Nancy était un Hollandais.
Vous utilisiez à Meudon essentiellement les antennes qui avaient été installées sur le site de Meudon pour faire des observations.
Oui, 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 c'est ça. C'était des antennes que j'avais été chercher en Allemagne. L'Allemagne avait cessé de se battre. Eh bien, on avait obtenu, nous avions donné deux Würzburg, deux gros trucs comme ça qui leur servaient à suivre les choses qu'ils envoyaient sur l'Angleterre au moment où ils faisaient la guerre. Mais là, on a utilisé ça d'une autre façon. Et Dollfuss, qui était là, qui est venu à Meudon.
Ah oui, alors, effectivement, c'est un aspect très intéressant, parce qu'en fait, vous arrivez à Meudon avec un domaine de recherche qui est nouveau, hein, la radioastronomie, ça ne se faisait pas du tout jusque-là à l'Observatoire de Meudon. Il y avait des équipes en place. Ouais. Ça s'est bien passé ou il y avait des incompréhensions?
Ça s'est bien passé, mais il y avait aussi des incompréhensions. Des incompréhensions qui tenaient sur des trucs bizarres. Par exemple, il y avait des gens qui étaient communistes. Et moi, je n'étais pas communiste. Je ne voyais pas pourquoi je serais communiste. Et ça, ils me le reprochaient. Enfin, curieusement. Et il y avait même une femme que j'ai retrouvée après quand je suis arrivé à Paris, quand je suis revenu à Paris. Et ces gens-là ont toujours créé des problèmes, quoi.
Ils faisaient partie de l'équipe de radioastronomie
de l'équipe de radioastronomie, oui. Ils faisaient partie de l'équipe de radioastronomie, mais ils étaient communistes. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça les embêtait que moi je ne le sois pas. Et à ce moment-là, avec les communistes, il y avait quand même des choses qu'il fallait faire, enfin, qui leur prenaient beaucoup de temps. Mais finalement, ça s'est terminé.
Et les équipes qui étaient en place déjà, qui faisaient de l'astronomie plus, disons, traditionnelle, comment réagissaient-elles par rapport à ce domaine nouveau de recherche?
Très bien. Oui, alors, quels ont été ces gens qui étaient là?
Par exemple, Audouin Dollfus était là.
Voilà, Dollfus, si. Dollfus, mais il y avait eu aussi d'autres gens qui... Beaucoup d'autres, d'ailleurs. Je me rappelle toujours quand on... Quand je suis parti de Meudon pour venir à Paris, il y en a un qui m'a dit, oh, bah, on ne peut pas dire, Meudon, tu sais, on ne peut pas dire, tu n'as pas fait grand-chose. Hein? Ah ben si, quand même, c'est toi qui as créé la cantine. Ils ont trouvé que quand même, j'avais fait une chose de bien, c'était de faire la cantine, qui est encore là maintenant. Hein? Mais bon, mais on avait fait beaucoup d'observations.
Mais vous-même, vous avez été directeur de la station de Nancy. En 1954, vous avez été nommé directeur.
Ah oui, non, mais j'étais... À cette époque-là, oui, j'étais directeur, mais...
Vous étiez à Meudon et à Nancy, en fait.
À Meudon, oui, c'est ça. J'étais à Meudon, à Nancy. C'est difficile d'être à la fois à Meudon et à Nancy. C'est quand même pas très commode, hein. Alors,
mais vous n'avez jamais résidé à Nancy.
Oh si, quand même. Si,
mais pas de manière permanente.
Pas de manière permanente. Enfin si, j'ai résidé tout au début. Tout au début, quand on a construit, quand on a préparé le terrain, quand on a construit tout ça, là j'étais à Nancy, je vivais là-bas. Hein. Aussi, parce que... Il fallait que j'aille voir les gens d'un côté et les autres de l'autre pour acheter le terrain. Et ça, ça m'a fait beaucoup voyager. Parce que ce terrain, c'était les gens qui étaient chefs de département, quoi, que j'allais voir les patrons des départements.
Les préfets.
Préfets, des gens comme ça, oui, que j'ai vus, soit à Orléans, parce que ça... tenait à Nancy, et l'autre qui était à du côté de vers Lyon, là, comment ça s'appelait, là. Enfin, un autre patron de là-bas, là. Et finalement j'ai réussi à percevoir à ces deux départements de me vendre un terrain de 2 kilomètres de côté, quoi.
Comment c'était l'ambiance à Nancy, entre les gens?
Oh, ben c'était bien, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et c'était des gens où il y avait beaucoup de filles. C'est bizarre, hein? Oui, mais beaucoup de jeunes filles. Des femmes d'observateurs ou d'observateurs qui sont mis à travailler à Nancy très très bien, parce qu'elles étaient très bonnes en astronomie. Et elles voyaient bien qu'avec le truc de Nancy, on faisait des trucs complètement nouvelles, quoi. Alors donc, elles étaient très intéressées en tant qu'astronomes à venir à Nancy. Il y en a eu, et puis il y a eu quelques hommes aussi, qui sont venus annoncer. Mais à cette époque-là, ça durait quelque temps. Et
pendant que vous étiez directeur de la station de Nancy, vous n'y résidiez pas, par contre?
J'ai résidé quelque temps. Oui. Quelque temps. Mais... je me débrouillais quand même à revenir, souvent ne serait-ce que pour revoir ma femme et mon enfant qui était à Paris. Donc finalement, le directeur de Nancy, à ce moment-là, était un Hollandais, qui lui est venu de Hollande.
Il n'avait pas le titre, donc, en fait.
Ah, ben si. Mais il avait le titre, Il était directeur de Nancy et il avait un nom hollandais.
Après moi.
Après moi. Parce que moi, après, j'étais pris...
Par autre chose,
à Paris. Et j'allais quand même à Nancy très souvent. Mais bon...
Et à Nancy, donc, il y avait à la fois des chercheurs français et des chercheurs étrangers. Donc, c'était...
De toute façon, là, c'était international. Hein. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Il y en a qui sont venus de partout, d'Amérique, d'Australie. Ils sont venus un petit peu voir ce que c'était, quoi. Pas rester bien longtemps. Mais à un moment, quand même, quand ça a commencé à marcher, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus. Et ça marchait bien.
Ouais. Vous aviez le sentiment que la France avait rattrapé un certain retard donc en radioastronomie?
Ah ben oui, on avait même gagné une grosse avance.
Oui.
Parce que le télescope de Nancy était le plus grand du monde à ce moment-là, quand on l'a construit. C'était l'antenne la plus grande du monde. Par conséquent, c'est avec cette antenne qu'on détectait les choses les plus petites dans le ciel. Et ça intéressait tout le monde. Et il y a beaucoup de Français qui sont venus quand même. Hein, mais de directeur même, on n'en trouvait pas. Mais des astronomes qui avaient envie, et il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs, qui venaient, dont certaines avec leur mari. Et là, il a fallu loger beaucoup de gens. Enfin, mais ça intéressait bien.
Et ils étaient accueillis où, tous ces chercheurs?
Eh bien, à Nancy. On a créé des endroits où on pouvait vivre. Oui, oui. Il a bien fallu parce que tous les gens qui sont là-bas, on leur a fait des endroits où ils pouvaient vivre. Parce qu'il a fallu faire des chambres, des trucs comme ça, des maisons, et puis des restaurants pour donner à manger. C'est devenu une organisation bizarre, mais enfin, on a dû faire tout ça. Et au bout d'un moment, je vous dis, tous ces trucs-là ont été dirigés par ça. Les gens en ont eu marre d'aller à Nancy. Ils y allaient pour faire des observations, comme ça, quelque temps. Mais ils ne voulaient pas être directeurs, parce que là, ça les forçait à rester là, de vivre tout le temps là.
Il y a James Lequeux qui a été directeur également de la station de Nancy.
James Lequeux, eh bien, il est venu, oui, mais...
Peut-être plus tard.
Et plus tard, oui, lui, il est venu, mais il n'a pas été directeur de Nancy, non. C'était déjà à ce moment-là, c'était déjà ce Hollandais qui... Oh, je ne sais pas son nom, alors il faut que je le retrouve.
Et entre Meudon, Nancy, vous étiez directeur de Nancy à cette époque-là, quels étaient vos rapports avec André Danjon?
Ah ben mon rapport avec André Danjon était très très bon. C'est avec Danjon que je lui ai dit qu'on devrait déplacer les gens qui étaient à l'école normale, qu'on devrait les déplacer à l'Observatoire de Paris.
Et donc c'est vous qui avez suggéré à André Danjon d'accueillir le groupe de radioastronomie de l'école normale supérieure.
C'est ça. J'ai été voir Danjon et je lui ai dit qu'il faudrait transporter, qu'on, qu'on mette, dépendant de l'observatoire, les installations de l'école normale. C'est ça. C'est ça.
Oui. Et il y a été favorable.
Ah, il y a été, oui, il y a été tout à fait favorable. Et donc, on a transporté à Meudon les deux télescopes, les deux miroirs. Et
du côté de l'école normale supérieure, il n'y avait pas de résistance? Enfin, Yves Rocard trouvait normal?
Non, Rocard trouvait tout à fait normal. D'ailleurs, il s'est entendu avec Durgeon. Et je les ai mis ensemble. Et ils ont trouvé que c'était bien comme ça. Et de ce fait, effectivement, il a fallu transporter les Blum et Steinberg
à Meudon aussi.
À Meudon aussi, oui, c'est ça. Et c'était plus ou moins commode pour eux, parce que ils ne vivaient pas là. Mais oui, mais ils avaient leur femme et leur famille. Hein. Alors, moi aussi. Donc, c'était pas tellement simple.
De rejoindre Meudon?
Ben, de rejoindre Meudon, oui. C'est pas tellement simple. Et là, on a trouvé des gens qui... Alors moi, là, j'ai recruté des gens, justement, qui n'étaient pas installés ailleurs, pour le moment. Et c'était surtout des gens qui... Il y avait d'une part des étrangers, beaucoup, qui sont tout à fait heureux de venir s'installer à Meudon, et puis des Français qui, eux, je les ai pris quand ils sortaient de leur école, quand ils avaient sorti de Polytechnique ou des trucs comme ça. Alors, j'allais les voir à la sortie de leur école et je leur proposais de venir à Meudon pour travailler. Et là, ça a très bien marché. Enfin, j'ai recruté beaucoup de gens qui sortaient des écoles, que ce soit l'école polytechnique ou l'école normale, ou ailleurs même, et qui venaient s'installer à Nancy.
Qui n'avait jamais fait de radioastronomie avant, donc.
Qui n'avait jamais fait de radioastronomie avant, non. Et que j'ai formé là-bas, faire de la radioastronomie.
À Nancy et à Meudon.
À Meudon. Et à Nancy, oui, parce que Nancy existait. Mais j'ai pas beaucoup allé à Nancy. Parce que c'était loin.
Et comment on va peut-être faire un petit saut dans le temps, puisque là, on est dans ces années de direction de la station de radioastronomie et du groupe de radioastronomie de Meudon. Et en 1963, quand André Danjon quitte l'observatoire, vous prenez sa succession.
Ben, je ne prends pas sa succession, mais oui. C'est-à-dire que Danjon... Donc, moi, je m'entends avec Danjon. Avec Danjon, on se réunissait avec Danjon et le directeur de l'école normale, et moi, tous les ans, pour faire le budget. Faire le budget de Meudon et de la radioastronomie. Et... Qu'est-ce que je vais dire, ça? Oui, et puis... Après, Danjon a pris les gens pour qu'ils aillent à Meudon. Parce que Meudon était un endroit qui dépendait de...
Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez comment ça s'est passé, la succession de Danjon, qui était quand même un directeur...
La succession de Danjon, elle s'est passée quand il a pris sa retraite. Et à ce moment-là, il y avait deux personnes qui se trouvaient candidats pour prendre la place de Danjon. Il y avait moi, et il y avait le gars de Marseille, là.
Fehrenbach.
Fehrenbach, c'est ça. Et Fehrenbach avait fait de la radioastronomie à Marseille aussi, l'astronomie à Marseille. Et donc, on s'est présentés tous les deux pour remplacer Danjon. Et il y a eu un vote de tous les gens qui travaillaient à l'observatoire, là. Et moi, j'ai eu une voix de plus que faire un bac.
Les nominations étaient faites en Assemblée générale, tout le monde votait.
Oui, tout le monde votait. Tout le monde votait de la... qui était des chercheurs de l'observatoire, quoi, hein, qui étaient là. Et ils votaient tous. Et ils se trouvent une voix de plus que Fehrenbach, qui a été furieux, qui me l'a reproché toute ma vie, mais moi, je n'ai pas fait ça exprès. Et donc, j'ai remplacé Danjon, qui est parti à la retraite. Et Danjon était très content, lui. Et pendant quelque temps, il a d'ailleurs travaillé, c'est-à-dire quand on se réunissait pour faire le... pour faire le budget, il revenait pour nous dire un peu ce qu'il faut faire, comment il fallait le faire, etc. Ça se passait très bien. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur de l'observatoire. Et vous, ça doit être quelque part, hein, vous avez trouvé ça.
Oui. Comment vous avez trouvé... Là, cette nouvelle fonction de directeur, vous éloignez quand même de la recherche. C'était difficile, j'imagine, de porter tout un établissement et de continuer à faire des recherches. Est-ce que vous avez trouvé ça lourd d'être directeur de l'Observatoire de Paris ?
Oh non, pas lourd, parce que les gens qui étaient à Paris m'ont tout à fait bien reçu. Très, très, très bien reçu. Et finalement, donc j'ai pu continuer à faire la recherche que je faisais. Tout en étant directeur d'Observatoire de Paris, je pouvais aller à Meudon pour utiliser le télescope. Et puis, ça allait bien. Et puis, ça durait comme ça.
Et donc, quand vous étiez directeur de l'Observatoire, vous étiez également impliqué dans d'autres activités, notamment de coopération internationale.
Oui, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là qui m'intéressait plus que l'Observatoire?
Il y avait des choses qui vous intéressaient plus que l'Observatoire.
Oui. Ben, à l'Observatoire, ils étaient tous là, ils avaient tous leurs trucs là. C'était bien, papa.
L'UAI, peut-être ?
Oui, parce qu'à ce moment-là, alors j'ai créé des tas de choses, moi, à ce moment-là.
Ou l'INAG ?
J'ai créé l'INAG, oui. J'ai créé l'INSU, j'ai créé des tas de trucs. Et ça a frappé l'Académie. Et à ce moment-là, en 1900, je ne sais pas combien, c'est l'Académie qui m'a appelé comme membre de l'Académie. Et donc, membre de l'Académie, c'était quelle époque, ça ? Oui, en 1960, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Et ça vous intéressait davantage, vous étiez...
Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est à ce moment-là où je me suis mis à tâcher de créer des organismes.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était l'INAC, quel était votre projet quand vous l'avez créé ?
Eh bien... au moment où j'ai créé Nancy, je me suis aperçu que les choses, si on voulait vraiment faire des choses nouvelles, ben, il fallait construire des gros instruments et faire des grosses choses. Et donc, à ce moment-là, il fallait créer de nouveaux établissements qui puissent prendre toute la responsabilité de ces grosses choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai suggéré de faire, je crois, 4 établissements nouveaux. Il y a l'INAG, alors, l'INSU, il faudra que je regarde où ils sont, ces trucs que j'ai faits. Et c'est à ce moment-là que l'Académie m'a fait rentrer à l'Académie. Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé que je faisais mieux de laisser la direction d'observatoire à quelqu'un qui n'a pas tous les avantages que j'avais. Et c'était à ce moment-là, qu'est-ce qui était nommé directeur?
C'était en 68 que vous avez quitté l'observatoire.
En 68.
Est-ce que vous vous rappelez des événements de mai 68 à l'observatoire?
Non, qu'est-ce qu'il y a eu?
En mai 68, il y a eu une révolution étudiante qui a diffusé dans la société française, qui a été un mouvement...
Ah, mai 68, oui, mai 68. Oui, bien sûr. Ah ben, mai 68, moi, il se trouve que en mai 68, il y a ma fille qui est passée. Je me suis trouvé chargé par les ministres et par De Gaulle, qui était à ce moment-là, que je connaissais, enfin, de tâcher d'arranger ça un peu, mai 68. Oui.
Racontez-nous ça.
Pardon ?
Mais racontez-nous ça, c'est intéressant.
Eh bien, voyons. Oui, à ce moment-là, j'ai trouvé qu'il fallait, pour faire les choses, pour pouvoir faire les choses, il fallait faire de nouvelles organisations, en somme, voyez-vous. De nouvelles organisations. Et c'est à ce moment-là que, justement, j'ai créé, alors, 5 ou 6 l'INAG, qui est devenu l'INSU. J'ai créé quelque chose qui est devenu l'INSU, où est-ce que je dois voir ça? Je dois voir ça là-bas.
Le CNES?
Pardon?
Pas le CNES?
Si, aussi, je suis devenu président du CNES, oui.
Plus tard, oui.
Ouais. Et puis après, il y a eu des trucs comme président du CNES, ce que j'ai fait essentiellement, c'est de faire une station qui pourrait lancer des satellites. Parce que à ce moment-là, c'était les Russes qui avaient envoyé le premier homme dans l'espace, Gagarine. Et les Américains n'avaient rien envoyé du tout à ce moment-là. Et à ce moment-là, De Gaulle, qui m'aimait bien, puisqu'il était venu à Nancy pour voir, il m'a demandé si je pourrais aller, mais ça, attendez, oui, si je pouvais aller en Russie pour voir comment on faisait de l'espace là-bas, puisque eux, déjà, ils lançaient des hommes dans l'espace. Alors, J'ai dit oui, bon, mais je vais voir comment. Alors j'ai fait ce voyage en Russie. Et j'ai été voir toutes sortes de choses. Alors, comment étaient les Russes qui faisaient cet espace. Et je me suis aperçu que ces Russes qui faisaient de l'espace, c'était tous des Juifs. Et ces Juifs, ils étaient très mal vus par les Russes. Mais ils se débrouillaient, eux, à lancer les gens dans l'espace, alors que même les Américains ne l'avaient pas fait. Alors j'ai regardé tous ces... J'étais d'abord à Moscou. Et à Moscou, il y avait près de Moscou des stations de gens qui faisaient de l'espace. À ce moment-là, personne m'a dit que c'était des Juifs. Mais il fallait aller les voir, comme qui dirait, vous étiez à Paris, il fallait aller à Orsay, vous voyez, un petit train à prendre. Il a fallu avoir 3 jours pour avoir des billets pour descendre de Paris à Orsay. Et j'étais là-bas et j'ai vu ces Russes qui travaillaient là-bas. Ils habitaient dans un endroit invraisemblable. C'était une espèce de longue couloir avec des rideaux de chaque côté. Et puis, on voyait les lits dedans et ils vivaient là-dedans.
Dans leur laboratoire de recherche ?
Eh bien, leur laboratoire de recherche, non. Leur laboratoire de recherche, c'était un peu mieux, mais pas tellement mieux. Enfin, ils étaient organisés, là aussi, un petit peu, oui. Ils faisaient aussi de la recherche, mais...
Et on accueillait facilement un Français dans...
Ah, très... Ben, oui, très facilement, parce que, à ce moment-là, De Gaulle, c'est lui qui m'avait envoyé. Et De Gaulle, il était très accepté par tout le monde. C'était vraiment un directeur, président. Donc, les Russes, quand je suis arrivé à Moscou pour aller visiter les Russes, j'ai dit que c'était De Gaulle qui m'avait envoyé. Ils m'ont dit, oui, bon, ben, écoutez, alors ils m'ont envoyé. Au bout de 3 jours, ils m'ont donné un ticket pour aller voir ceux de... Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils leur ont dit avec... Je ne devais pas voir trop bien. Enfin bon, mais j'ai vu. Puis après, alors, il a fallu que j'aille voir ceux qui étaient dans le nord, à Saint-Pétersbourg. Et là, alors, on m'a confié une jeune femme, comme direz-vous, pour m'accompagner, pour m'accompagner à Saint-Pétersbourg. Et on a pris le train à Moscou, pour monter à Saint-Pétersbourg. Alors, j'ai pris le train là-bas, on a pris le train tous les deux, hop, on est monté dans le train qui nous a... Et on est parti pour Saint-Pétersbourg. À un moment, moi, j'ai envie d'aller aux toilettes, alors j'ai quitté la place, j'étais à côté d'elle, là, de l'autre côté de la fille, j'étais aux toilettes. Et puis je suis revenu, puis elle n'était plus là. Ah. Ok. J'ai dit, tiens, alors, il allait peut-être être aux toilettes. Ou elle est allée manger quelque chose dans le train. Alors j'ai attendu. J'étais installé ailleurs, un peu plus attendu. Et puis, elle ne l'a pas vu venir. Alors je me suis baladé un peu dans le train. Et puis à un moment, j'ai retrouvé dans 3 ou 4 wagons plus loin. Elle était là et j'ai dit, mais ah, pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? Mais vous n'avez pas vu, elle m'a dit. Non, je n'ai pas vu. Mais il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, oui, mais enfin, pourquoi vous êtes parti? Elle m'aurait laissé la place quand je serais revenu. Mais non, c'était un juif. Voilà. Voilà, donc vous en étiez.
Vous avez été frappé par l'antisémitisme des Russes à cette époque.
L'antisémitisme des Russes, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Et quand je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, ben c'est pareil. C'était pareil. Je vois que là, les gens qui faisaient de l'espace, ils étaient curieusement installés dans des trucs qui étaient vraiment à peine vivables, quoi. Hein. C'est drôle.
Ouais. À peine vivables, mais néanmoins, ils arrivaient à envoyer des hommes dans l'espace.
Néanmoins, ils arrivaient à... Oui, oui. Ben oui. Oui, là, ils avaient quand même un bon laboratoire. Ouais. Mais ce bon laboratoire, là, il y avait pas mal de Russes.
De Gaulle vous a facilité. C'est De Gaulle qui, en fait, vous a proposé de prendre...
Oui.
Qui vous a poussé vers le spatial, en fait.
Oui. Et qui m'a poussé vers le spatial. Oui, enfin... Oui, à ce moment-là, j'ai vu que pour qu'on puisse faire des choses un peu bien, il fallait organiser ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai essayé de faire l'INAG, l'INSU, des choses comme ça. Et quand j'ai fait ça, eh bien, à l'Académie, ils m'ont fait rentrer à l'Académie des sciences. Alors, je suis rentré à l'Académie des sciences parce que, bon, j'avais suggéré qu'on fasse tout ça. Et à partir de ce moment-là, bon, ben, j'étais académicien. Sans ces affaires, je ne revenais pas. Mais ça a très bien marché, finalement. Et depuis ce moment-là, d'ailleurs, l'Académie me paye une petite ristourne en plus. Je touche tous les mois. Et j'ai aussi, je suis occupé du bureau de longitude, que j'ai dirigé aussi à cette époque-là. Et le bureau de longitude, j'étais directeur, et ils me fournissent aussi encore un petit peu de fric tous les mois, comme l'Académie, qui s'ajoute à ma retraite.
D'astronome. Est-ce que vous...
Alors, je ne sais pas, ce que, avec maintenant, on regarde comment ça, on va donner, changer la date de la retraite. Alors, je ne sais pas moi, si je vais changer ou si ça va... Enfin, bon, maintenant, c'est fini. Hein. Ça, tant pis. Tant pis, ça ira.
Je pense que ça ira. On ne vous rappellera pas au travail.
Je ne crois pas.
Est-ce que pendant votre mandat à l'Observatoire de Paris de directeur, oui, vous avez réalisé des choses particulières, vous avez un souvenir particulier d'événements scientifiques ou autres qui se seraient passés?
Je n'ai pas resté tellement longtemps directeur.
Non, 5 ans. 5 ans, c'est relativement court en effet.
Oui, c'est relativement court. Ben oui, parce que tout de suite, j'avais un copain très bien qui était devenu directeur d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a fait quitter l'observatoire?
Peut-être les événements de mai 68 aussi, qui ont changé même.
Ah ben là, l'événement de mai 68, ça a joué un rôle. Il y avait un ministre à Paris, là, qui m'a un peu utilisé pour calmer les gaullistes, enfin les jeunes.
Les jeunes astronomes?
Non pas les jeunes astronomes, mais les jeunes qui faisaient la révolte de mai 68.
Ah, on vous a appelé, on vous a demandé à l'époque de mai 68, oui, d'avoir une action?
De voir si je pouvais... voir si quelque chose qu'on pouvait faire pour arranger ça. Moi, je n'ai pas eu l'impression que je faisais quelque chose, mais je ne sais pas, ça s'est arrangé tout seul. Mais j'ai l'impression que De Gaulle a pensé que c'était moi qui avait contribué à la... Et à partir de ce moment-là, il a été très gentil avec moi. Il y a un événement là qui s'est arrivé récemment, c'est que il y a un garçon qui était au bureau de Longitude, là, il vient d'écrire un livre sur le gars qui était quand j'étais président du CNES, qui était le directeur du CNES. Quand j'étais directeur du CNES, alors j'ai eu des gens qui sont devenus très méchants avec moi, c'est Blamont, parce qu'il voulait que je prenne son laboratoire et que je l'attache au CNES. Moi, je trouvais que c'était pas ça, Blamont, il avait son laboratoire, c'était son truc. Et donc, j'ai monté un laboratoire au CNES, mais c'était pas Blamont qui...
Et Blamont était... Où était le laboratoire de Blamont?
Le laboratoire de Blamont, il était...
Donc il n'avait aucun rapport avec le CNES, en fait.
Ah non, il n'avait aucun rapport avec le CNES. Non, il n'avait aucun rapport avec le CNES. Mais il était à l'est de Paris, là. Enfin bon, c'était pas un truc du CNES. C'était un truc qui était un laboratoire à Blamont. Mais Blamont, on l'avait chargé d'être le conseiller scientifique. Ils avaient fait des manips, des trucs, enfin, il était bien. Il était très bien. Mais enfin, il voulait, lui, entraîner tout son laboratoire au CNES. Et moi, je trouvais que ce n'était pas la peine. Il ne fallait pas le faire. Et ce fait, Blamont est encore contre moi maintenant. Parce que je n'ai pas voulu enchaîner son laboratoire avec le CNES. Puis après, les choses ont changé. Moi, j'ai créé la mission de la recherche avec Madame Sonia Seyté, Alice Sonia Seyté, qui était ministre
de l'Éducation nationale.
De l'Éducation nationale, plus ou moins, oui. Et moi, j'ai créé la mission de la recherche, là. Et bon, ça m'a bien intéressé. J'ai trouvé que la recherche, il fallait la faire marcher. Elle ne marchait pas bien. Et les gens partaient à l'étranger. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'étais voir des gens, on savait qu'ils étaient français, et qui avaient des postes aux États-Unis. Et là, j'en ai trouvé deux ou trois, quatre. Et j'aurais dit qu'ils devraient rentrer en France parce que c'était des gens bien. Et finalement, ils sont rentrés en France, effectivement.
Vous parliez de la création de la mission de la recherche, puisque
oui,
quand même quelque chose que je ressens de tout ce que vous me dites, c'est que vous avez toujours attaché beaucoup d'importance à l'organisation de la recherche, à la doter,
c'est ça,
à doter la recherche d'instruments scientifiques et administratifs qui lui permettent de s'organiser et de mieux fonctionner.
Oui, c'est vrai.
Le moment où vous avez créé la mission de la recherche, c'est plutôt sur la fin de votre carrière scientifique. Vous vous rappelez de cette époque? C'était quand même une expérience encore assez différente au ministère.
La mission de la recherche, oui, j'ai dû la créer à ce moment-là. Oui.
C'est une activité qui vous a intéressé?
Ah ben oui, qui m'a bien intéressé, oui. Mais j'en suis pas resté très longtemps. Hein, parce que...
On pourrait peut-être revenir sur le CNES, dont on a assez peu parlé, donc votre présidence du CNES.
Oui, alors, j'ai pris la présidence du CNES, oui, à un moment. Et à la présidence du CNES, donc j'avais comme directeur Aubinière.
Aubinière.
Directeur était Aubinière. Et on s'est très bien entendu. Je suis allé voir les Américains, parce que nous, on ne faisait pas encore de lanceurs, Et eux, ils en faisaient. Ils n'avaient pas été les premiers, c'était les Russes qui l'avaient fait, mais enfin, bon, ils en faisaient. Alors, j'étais aux États-Unis pour voir ça. Et aux États-Unis, ils m'ont dit que non, c'est bon. S'il y avait une incidence économique à un lancement, ils ne nous donneraient pas de lanceur pour faire ce lancement. Alors, je suis revenu en France et puis j'ai dit ça au ministre, là, en leur disant, écoutez, il faudrait qu'on fasse un lanceur. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai dit, moi, je vais vous proposer de faire un lanceur européen. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé que le mieux, c'était qu'il fallait que je vois si les Européens voulaient faire un lanceur. Et à ce moment-là, j'étais voir tous les pays d'Europe, depuis la Suède jusqu'à la Méditerranée, et l'Espagne, j'ai fait tous les pays. Ça va durer au moins un mois, peut-être plus. Parce qu'ils étaient tous très gentils. Ils m'ont tous amené pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'y participer. En particulier, par exemple, j'ai dû, quand est née ma plus jeune fille, qui a maintenant 50 ans, j'étais à voir le petit pays qui est dans l'ouest de la France, là. Et alors j'étais allé voir et pour voir ce qu'on ferait, ce qu'il faudrait faire. Et finalement, comme c'était deux petits pays qui étaient là l'un contre l'autre, là, le Danemark, et puis vous ne voyez pas un autre pays là qui est à côté, non? Eh bien, alors, ces deux pays, ils allaient faire toute l'informatique pour le lanceur européen. Et ça me paraissait très bien. Et depuis maintenant, c'est eux qui ont le plus gros truc d'informatique de l'Europe. Ils vivent avec ça très bien. Mais
donc en fait, votre tournée des pays européens pour emporter leur adhésion à l'idée d'un lanceur européen a tout à fait fonctionné.
A très bien fonctionné, sauf deux choses. Enfin, a très bien fonctionné, oui. Ça n'avait pas fonctionné en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y avait Madame l'Anglaise.
Thatcher.
Madame Thatcher. Et Madame Thatcher, en Angleterre, j'ai vu le ministre le plus important, oui, qui s'appelait Heseltine. Je crois que c'était Heseltine. Et alors, j'étais lui parler de ça. Et il m'a dit, écoutez, je vais voir si on veut faire ça. Enfin, bon, après, il m'a téléphoné pour me dire que oui, ça, il répondrait oui à la réunion qui allait se faire. Et cette réunion s'est faite effectivement en Belgique. Je ne me rappelle, j'ai plus la date ici, mais ça y est. Et en Belgique, alors ça se tenait à une heure, et le matin, je suis arrivé et j'ai vu on était en Belgique, et j'ai vu le Premier ministre d'Angleterre qui m'a pris et qui m'a dit, je vais vous dire, Madame Thatcher ne veut pas le lanceur. Mais moi, je vais quand même dire oui à la réunion que nous faisons ce soir. Mais je dirai à Madame Thatcher que si j'ai dit oui, c'est que j'étais d'accord avec le nom du lanceur qui s'appelait Ariane. Je serai d'accord sur le nom et je dirai oui Mais ce oui, ça sera oui pour le non. Alors, moi, alors on a eu la réunion, puis il a dit oui, moi, en me regardant. Et puis, j'ai retenu ça. Et puis, Thatcher, finalement, c'était l'Angleterre.
Tout le monde, finalement, a participé.
Tout le monde a participé, oui, à ce lancement de la fusée Ariane. Tout le monde. Et un autre qui m'avait donné du mal, c'était le roi d'Espagne. Parce que le roi d'Espagne, à cette époque, je ne sais pas comment il s'appelait, Franco, je ne sais pas quoi, il n'était pas supporté par les Espagnols.
Ah, c'était le général Franco, il n'était pas roi, c'était le...
Oui, oui. Eh bien oui, mais c'était le...
Oui, il était bon, censé être président.
Mais il était président d'Espagne, donc c'est lui que je devais voir. Quand il n'y avait pas de roi... Et lui, alors, il m'a fait 8 jours avant que je le voie. Puis finalement, il a dit, bon, ben, vous direz oui pour moi, mais... Finalement, il a accepté de dire oui, lui. Mais pour les Anglais, le jour où on s'est réunis, ben, je vous l'ai dit, là, c'est... Et Zeltaï m'a dit, moi je vais vous dire oui, mais c'est le non. Et finalement, bon, ben, ça a terminé comme ça et tout le monde l'a fait finalement.
On vous confiait des missions qui étaient quand même extrêmement délicates. Est-ce que vous étiez soutenu par, je sais pas, le ministère des Affaires étrangères ou différents ministres dans ces démarches?
Eh bien, j'ai fait la mission de la recherche. La mission de la recherche, c'est une mission qui était où le ministre était Madame Sonia Saïté. C'est Madame Sonia Saïté. Et là, ils étaient avec une secrétaire remarquable que j'avais bien connue. Et qui est maintenant ministre...
Alliot-Marie.
Alliot-Marie, c'est ça. Madame Alliot-Marie.
Et elle était... Quelle était sa fonction à l'époque?
Elle était la secrétaire de Madame...
Sonia
Saïté. Et moi, je l'ai bien connue à cette époque. Je la trouvais vraiment très bien, cette fille. Cette femme, très bien. Mais... À ce moment-là, j'ai créé la mission de la recherche avec Alice Sonia Saïté. Et cette mission de la recherche, j'ai créée dans son ministère. Et cette mission de la recherche, je l'ai faite. Et j'ai créé un groupe de personnes qui faisaient les membres de la mission de la recherche. Et qui est tous les meilleurs dans leur discipline. Et j'avais trouvé 12 disciplines, je crois, qu'il fallait 12 disciplines, l'astronomie,
les mathématiques,
il y en avait 12. Et dans ces 12 disciplines, j'avais choisi la personne qui me paraissait la plus valable. Et ces personnes... Alors, ces personnes formaient la mission de la recherche. C'était une douzaine, non? Et cette douzaine de personnes, toutes les fois qu'il y avait un poste qui était créé quelque part, le candidat envoyait sa proposition de candidature aux membres de la recherche qui correspondaient à sa discipline. Et s'il y en avait plusieurs, ben c'était le moment de la recherche qui choisissait parce que c'est plus difficile. Or, habituellement, ces trucs-là, quand ça fonctionnait, c'était toujours les enfants des professeurs et surtout du directeur de la recherche qui prenait son fils et qui le mettait comme professeur, hein, futur professeur. Et alors, ça ne s'est plus passé comme ça. Et à ce moment-là, il y a un ministre français. Parce qu'Alice, c'était à ce moment-là, elle était partie aux États-Unis pour faire je ne sais pas quoi. Elle était partie aux États-Unis, donc je l'ai remplacée. Et comme il y a eu une réunion
au ministère.
Oui, avec, pas au ministère. Une réunion de tous les ministres.
Un conseil des ministres.
Un conseil des ministres, donc je remplaçais Alice Sonnier-CIT, elle m'a dit de remplacer dans ce conseil des ministres. Et donc j'étais là, ce conseil des ministres, et ça s'est très bien passé. Une fois, il s'est passé quelque chose qui n'était pas bien, c'est que le président de ce conseil des ministres me téléphone et me dit « Je voudrais que vous mettiez mon fils membre de la truc de Toulouse. » Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas moi qui décide ça. Ce ministre, c'était un des présidents qui était avant le président actuel.
Jacques Chirac.
C'était Chirac, voilà. C'était Chirac qui m'avait téléphoné pour que je mette son fils, que je nomme son fils au Toulouse.
Au CNES ?
Non, à l'Université de Toulouse. Alors, j'ai téléphoné à Chirac pour lui dire que, malheureusement, tant que j'avais fabriqué la mission de la recherche, c'est la mission de la recherche qui déciderait pour vous. Il me voyait mal quand j'allais à la réunion de ministres après, parce qu'Alice partait ailleurs. Donc, mais il n'a jamais pu passer son fils. Puis il a vu que. Par contre, il y en a qui ont été reçus à l'Académie parce qu'ils étaient dans ce groupe.
Je voudrais simplement revenir encore un petit peu en arrière sur une période qui évidemment m'intéresse, votre mandat à l'Observatoire de Paris, puisque je représente l'Observatoire de Paris. Au moment de votre départ en mai 68, je sais que l'Observatoire a connu beaucoup de débats, d'animations, ouais, notamment l'Observatoire de Meudon. Est-ce que vous en avez des souvenirs un peu précis ?
En mai 68 ?
Oui, en mai 68, à l'Observatoire de Paris, et notamment l'Observatoire de Meudon.
Oui, mais attendez. Oui, mais en mai 68, j'étais à l'Observatoire de Paris à ce moment-là.
Oui, vous étiez encore directeur.
Directeur, hein, oui. Et c'est le. Il y avait le président à ce moment-là, c'était.
Il n'y avait pas de président, en fait, vous étiez directeur.
Non, mais je veux dire au gouvernement.
Eh bien, c'était De Gaulle.
Il y avait De Gaulle, hein, oui, c'est ça. Et De Gaulle, à ce moment-là, il y avait un ministre qui se chargeait un peu de cette histoire de mai 68. Ben, c'est ce ministre qui m'a chargé de voir un peu ce qu'on peut faire pour calmer mai 68, quelque chose comme ça.
Mais à quel niveau ? En proposant une nouvelle organisation des établissements ?
Je ne crois pas. En tous les cas, je crois que. Non, en évitant qu'il se passe des choses qui risquaient d'être dangereuses, enfin, où des gens pouvaient mourir, quoi. C'est ça que moi. ce que j'ai voulu arrêter, c'était ça. Et ça a bien marché, finalement, ça s'est arrêté tout de suite après, quoi.
Et à l'Observatoire de Meudon, même, vous rappelez de... Vous avez participé à des assemblées générales ou...
Oui. Et il y avait même j'ai participé à des assemblées générales. Il y avait des gens qui étaient communistes, souvent, qui ne pouvaient pas me supporter. Et je ne savais pas trop quoi faire. Mais enfin, bon, ça s'est passé bien quand même. Ouais.
Parmi vos activités annexes, donc vous avez eu énormément de choses. Hein. Vous avez été chargé de cours à la direction des enseignements supérieurs au début de votre carrière. Vous avez été dans pas mal d'instances au Centre national de la recherche scientifique. Ouais. Au CNES.
J'étais académicien.
Académicien. Donc, qu'est-ce qui vous paraît, avec le recul, le plus marquant? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé?
Oh, ben, moi, j'aimais bien, quand on m'a mis directeur du bureau de longitude, j'ai bien aimé ça. C'est intéressant. Quand j'étais directeur de danser, je trouvais ça bien aussi, mais... Pour aller danser, je mettais tellement de temps, c'était tellement difficile. Hein. Quand j'étais directeur de...
Le CNES, président du CNES.
Président du CNES, ça m'a aussi beaucoup intéressé. Mais...
Directeur de l'Observatoire de Paris aussi.
J'étais directeur de l'Observatoire de Paris. Mais directeur du CNES... La chose la plus importante que j'ai fait, c'était d'aller faire le tour des pays européens pour démarrer la fusée Ariane. Hein, c'était bien. C'est ce qui s'est fait. Malgré tous les petits détails que je vous ai donnés. Mais à l'Observatoire de Paris, j'ai bien aimé l'Observatoire de Paris parce que c'était... Je connaissais pas mal de femmes qui étaient là quand même.
Et vous avez également été président du comité français d'organisation européenne pour un observatoire dans l'hémisphère austral de l'ESO.
Dans l'hémisphère austral de l'ESO.
Oui, vous avez été président du comité français de l'ESO, vous vous rappelez aussi
sûr.
De ça?
Oui, oui.
C'était aussi complètement lié à la fois à l'astronomie avec cette dimension internationale et de mission.
L'ESO, oui, et surtout qu'à cette époque... On a créé l'ESO. On devait l'installer au Chili, là-bas.
Oui.
Et à ce moment-là, au Chili, il y avait un gars affreux qui dirigeait le Chili.
Pinochet.
Pinochet, c'est ça. Il y avait Pinochet qui était là. C'était bien lui, hein, c'était Pinochet. Et pour l'installer, le télescope là-bas, comme moi, c'est moi qui présidais ce groupe.
Ce comité français, oui.
Comité français des télescopes, là. Donc, j'étais au Chili pour voir Pinochet, et pour lui demander si on pouvait s'installer là. Hein. Fallait quelque chose. Hein. Alors, j'ai pu convaincre Pinochet qu'il fallait le faire.
Vous l'avez vu personnellement, vous l'avez convaincu.
J'étais
chargé de vraiment de négocier.
J'ai été le voir pour lui dire qu'on voulait faire ça, quoi, que ça c'est important qu'on puisse le faire, etc. Et finalement, il a accepté. Donc on a pu le faire. Et maintenant il existe et il marche bien.
Et c'est un équipement européen.
C'est un équipement européen, oui. Ouais. Ça marche. Mais il a fallu que j'aille voir Pinochet. C'est marrant. Mais... Je me rappelle, je suis arrivé dans la rue là où il habitait. Et finalement, il y avait toute la rue, il y avait des soldats. Et qui empêchait les gens de rentrer chez Pinochet. Parce qu'il y avait plein d'ennemis. Alors, moi, je me suis fait prendre par les soldats. Ils m'ont emmené dans un coin. Et puis, bon, on dit non, vous ne rentrerez pas, c'est pas possible. Et voyant qu'ils ne voulaient pas me faire rentrer, j'ai dû à l'un d'eux, écoutez, allez le voir et dites que c'est pour installer un télescope chez lui. Alors, c'est important, il va peut-être vouloir le faire. Alors, il est parti. Et un quart d'heure après, Pinochet est venu me chercher et il m'a amené chez lui. Ah oui, il était très très content qu'on installe un télescope, mais tout le monde pensait qu'il ne voudrait pas le faire. Donc, bon, ben, j'ai suivi Pinochet jusque chez lui, et puis il a dit oui. Et ça, j'ai obtenu ça.
Et vous étiez seul, vous n'étiez pas accompagné par un représentant?
Non. Puisque je présidais le groupe. Le groupe européen qui préparait ce télescope.
Après toutes ces activités professionnelles extrêmement importantes, comment s'est passé votre départ à la retraite? En fait, vous n'avez pas renoncé à avoir des liens encore avec l'astronomie ou la...
Ben non. Quand j'ai pris ma retraite, c'était...
Vous avez continué.
Je la touche, toujours.
Vous avez continué à avoir des activités, notamment au bureau des longitudes ou
Alors, il y a le bureau des longitudes qui me fait toujours venir et l'académie et l'école normale et l'observatoire de Paris. Toutes les semaines, je vais voir les conférences qu'ils font là-bas. Et souvent, je prends un café dans le restaurant que j'ai fait construire. C'est moi qui l'ai fait construire à l'observatoire, le restaurant qu'il y a maintenant. Vous voyez, à l'observatoire de Paris.
Dans le bâtiment B.
Au bâtiment B, c'est ça. Ce bâtiment B, c'est moi qui l'ai fait construire. Tout le bâtiment B qui donne sur l'avenue d'Enfer, Claire Rochereau.
Oui, c'est une chose importante dont nous n'avons pas parlé.
Oui.
Comment ça s'est passé, la négociation? Je suppose qu'il y a eu des négociations pour acquérir le terrain.
Absolument.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé un peu difficilement. Mais enfin, j'ai réussi à trouver de l'argent pour acheter ce truc qu'il y avait là, qui était tenu par des gens qui sont connus, enfin, il y a un nom. Enfin, ils ont accepté de vendre toute cette...
Cette parcelle.
Cette parcelle, oui, cette parcelle qui va d'un côté à l'autre de l'entrée de l'avenue d'Enfer Rochereau, là, on rentre dans l'observatoire. Et c'est là, à côté, qu'il y a le restaurant. J'ai fait construire le restaurant.
Parce qu'auparavant, on ne rentrait que par le 61 avenue de l'Observatoire. Ben
voilà, on ne rentrait que par le 61. Et pour rentrer là, déjà, à ce moment-là, on pouvait rentrer là, mais c'était assez compliqué. Mais les voitures ne rentraient pas là, parce que quand je suis rentré à l'Observatoire, dans cet endroit-là, c'est ça que j'ai beaucoup changé d'ailleurs, parce qu'il y avait encore toutes les écuries, dans toute la rue, là, qui va jusqu'au bout. Et il y avait les écuries, il y avait les chevaux. C'était la poste qui entretenait ces chevaux, là. Et moi, j'ai fait acheter ça, quand on a pu. On a acheté aussi de l'autre côté.
Des écuries également, vous avez fait acheter
toute cette partie-là. Et toute la partie de l'autre côté. Ouais. où il y a des taxis qu'on va voir, où il y a des gens qui peuvent se garer là.
Et là, vous avez pu obtenir facilement des moyens pour en plus non seulement acheter un terrain, mais également construire de nouveaux bâtiments ?
Très facilement, oui. Oui, oui. J'avais... Oui, ben... La chose a été très, très acceptée. Franchement, ça ne m'a pas coûté un sou. Hein. C'est pas sorti de ma poche. Mais les gens qui tenaient ça, ils me l'ont vendu. Ils l'ont vendu à l'observatoire. C'était pas très cher, d'ailleurs.
Et cette
C'était assez minable quand on l'a acheté. Ouais.
Il y avait des bâtiments qu'il a fallu démolir ?
Ah, il a fallu démolir, oui, il y avait des bâtiments, il a fallu démolir. Ouais. Ouais.
Et cette construction, ça correspondait à un besoin lié à une expansion du personnel de l'observatoire et des chercheurs ?
C'était à la fois ça et... Oui, on avait besoin de construire d'autres choses quand même, oui. Mais enfin là, ça a été utile parce qu'on a pu faire quand même pas mal de choses dans ce bâtiment-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont installés là-dedans. Hein. Et l'observatoire, il n'y avait plus beaucoup de place. Hein.
Et vous avez pu le réaliser au cours de votre mandat ou le bâtiment a été achevé après
oh, j'ai dû... Le liquider à peu près, oui, pendant que j'étais là, à l'observatoire, oui. Mais à ce moment-là, peut-être que je faisais un cours
à l'IAP, peut-être.
À l'IAP, oui, c'est ça. Un cours à l'IAP.
Donc un cours sur les plasmas.
Un cours sur les plasmas, oui, c'est ça, oui. Un cours sur les plasmas. C'est le dernier cours que j'ai fait, d'ailleurs, après j'ai plus fait. C'est le dernier cours que j'ai fait là. C'est là où j'ai connu Delcroix.
Et vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez des départements ou des laboratoires qui sont venus s'installer dans ce bâtiment construit sur l'avenue d'Enfer Rochereau ?
Non, c'est pas moi qui ai décidé ça.
Qui ensuite...
Ça s'est descendu. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu y aller. Parce qu'à l'observatoire, vrai, il était plutôt tassé là-dedans. Hein. Donc, ils ont quand même été bien contents d'aller là-dedans.
Oui. J'aurais aimé encore vous poser une dernière question, une avant-dernière question. Quand vous voyez toute cette carrière qui a été très riche, hein, avec beaucoup de choses, tant dans la recherche que dans l'organisation de la recherche ou le pilotage, la direction d'établissements importants. Est-ce que vous avez des regrets ?
Oh non. Non, je n'ai pas de regrets du tout. Non, je n'ai pas de regrets parce que finalement, tous ces trucs que j'ai fait construire, ouais, ils sont très utilisés. Ils sont très utilisés, très bien maintenant. Alors, bon...
De choses que vous auriez voulu faire et qui finalement n'auraient pas pu être faites ?
Même pas. Même pas, non. Voyons. Oh non.
Est-ce que, si je vous demandais deux, trois phrases à me dire, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans tout ça ? La recherche spatiale ou l'observatoire ou la recherche.
Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Le truc de Meudon m'a beaucoup plu.
Le groupe de radioastronomie ou la présidente ou le moment où vous dirigez le groupe de radioastronomie à Meudon ?
À Meudon, oui. Enfin, le fait que j'ai pris le contact avec Meudon, ça m'a plu beaucoup parce que. Même maintenant, il m'invite encore à y aller. Hein. Je connais encore des gens de Meudon qui m'envoie des programmes. Et je, quand je peux, j'y vais. C'est pas très correct pour y aller, pour moi, d'ici. Enfin bon, j'y vais quand même.
Donc c'est... Et
maintenant, bon, tous ces autres trucs-là, des grandes... comme l'INAG ou les choses que j'ai fabriquées, c'était aussi important, hein, parce que ça a changé de terme, mais ça s'est continué, c'est toujours utilisé. Alors, je suis content d'avoir fait marcher ça.
Oui. J'ai vraiment une dernière question. Donc, un peu à côté. Hein, donc, est-ce que vous avez... Bon, vous avez eu évidemment des activités politiques. Dans tout ce que vous nous avez raconté de manière évidente,
oui,
hein,
oui,
un rôle politique...
D'ailleurs, quand la gauche est arrivée au pouvoir, après que j'ai quitté l'Université, Madame Marie, eh bien, la gauche m'a foutu en l'air.
Ouais. Vous avez eu le sentiment d'être...
Ah ben non, mais j'ai perdu le rôle que je jouais au ministère de l'Éducation nationale. Quoi. Ouais.
Mais ça ne correspondait pas pour autant à un engagement politique personnel. Vous n'étiez pas un militant politique.
Ah ben non, pas du tout. Mais eux, ils étaient politiquement à gauche et ils ne voulaient pas. Moi, je n'étais ni à gauche ni à droite, mais enfin, vraiment, ça, alors, j'ai jamais voulu être ni à droite ni à gauche. Et ça ne me plaisait pas du tout. Il fallait que je sois à gauche. Moi, je ne voyais pas pourquoi je serais à gauche, parce que j'avais un ami qui était à droite. Les amis étaient médecins, ils avaient toutes autres choses. Mais... j'ai jamais voulu me faire l'air. Et d'ailleurs, ça m'a toujours été reconnu, ça. Et même quand la gauche m'a foutu en l'air, j'ai gardé des tas d'amis. Dans la gauche, qui m'ont vraiment gardé beaucoup d'amitié. C'est agréable.
Votre dernier poste était aussi très politique.
Quoi ?
Votre dernier poste était également plus politique.
C'était plus politique. Ah ben oui, dès le moment où j'étais... justement, je suis rentré à l'Académie, c'est devenu très politique. Oui.
Monsieur Denis, je vous remercie pour cet entretien.